Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes d'amitié et de fraternité en ce lundi 4 avril 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Les États-Unis n'ont aucune compassion pour les pays islamiques, souligne le président iranien Ebrahim Raisi. Les forces d'occupation turques et leurs mercenaires de réseaux terroristes ont renouvelé leurs attaques contre la localité d'Abu Rasin, dans la banlieue nord-ouest d'Asaka, et en Somalie, sept terroristes Shebab ont été tués dans le centre du pays. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré dimanche 3 avril que les États-Unis n'avaient aucune compassion envers les nations islamiques de la région. Au cours d'une conversation téléphonique avec son homologue irakien Bahram Saleh, le président iranien a déclaré qu'il était devenu évident que cette puissance extérieure à la région ne cherchait que son propre intérêt et ses propres objectifs hégémoniques. Il a indiqué que l'Iran soutenait l'Irak dans ses efforts pour promouvoir son unité, son indépendance, sa sécurité et son statut régional et international, et a souligné que toute insécurité en Irak serait préjudiciable à l'ensemble de la région. L'ampleur des relations fraternelles et amicales qui unissent l'Iran et l'Irak dépasse de simples relations de voisinage, a souligné le président iranien à M. Saleh, son homologue irakien. Le président irakien a quant à lui mis l'accent sur la nécessité de renforcer la coopération bilatérale Iran-Irak afin de surmonter les grands défis régionaux en accordant notamment la plus grande priorité à la stabilité et à la sécurité dans la région. Les crises régionales peuvent être résolues uniquement par les pays de la région et non pas par des ingérences extérieures, a affirmé M. Saleh. Les forces d'occupation turques et leurs mercenaires de réseaux terroristes ont renouvelé dimanche 3 avril leurs attaques contre la localité d'Abu Rasin dans la banlieue nord-ouest d'Asaka. Des sources locales ont fait savoir aux correspondants de Sana, l'agence de presse officielle syrienne, que les groupes terroristes liés à l'occupation turque avaient violemment visé aux obus d'artillerie les maisons et les propriétés des habitants du village de Dardara, à proximité de la localité d'Abu Rasin, dans la banlieue nord-ouest d'Asaka. Les sources ont également indiqué que les attaques avaient causé des dégâts dans un certain nombre de maisons et de propriétés publiques et privées. Les centres de régularisation dans les banlieues de Deir ez-Zor, Raqqa et Alep ont témoigné la régularisation de la situation des dizaines de civils conformément à l'accord proposé par l'État, alors que le processus de régularisation a commencé dans la localité de Bada, dans la banlieue de Damas, pour un seul jour et dans le même cadre. Dans une déclaration aux correspondants de Sana'a, un certain nombre de personnes dont leur situation ont été régularisées dans la ville d'Al-Mayadin, dans la banlieue est des Resorts, ont révélé que le processus de régularisation est une vraie occasion pour retourner dans leur village et pratiquer leur vie normale. Par ailleurs, le correspondant de Sana dans la banlieue est de Damas a souligné le lancement du processus de régularisation dans la localité de Bada, où des dizaines de personnes recherchées ont afflué afin de régulariser leur situation dans le cadre des accords proposés par l'État pour établir la sécurité dans toutes les régions. Le correspondant de Sana dans la banlieue de Lara a indiqué que des dizaines de personnes recherchées ont rejoint le processus global dans les deux centres de Dépsia, Fnan et Sapra. En outre, le correspondant de Sana à Alep a indiqué que les deux centres de Talarn et Ayan ont connu un grand afflux des personnes voulant rejoindre le processus de régularisation pour retourner dans leur village et à leur vie normale. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, UNRWA, est confronté à une dégradation de sa situation financière sur fond de crise Russie-Ukraine, a indiqué dimanche un non-responsable de l'instance. Le conseiller médiatique de l'UNRWA à Gaza, Adnan Abou Asna, a déclaré que certains pays donateurs avaient prévenu l'Agence des Nations Unies de ne pas attendre même la moitié des dons et subventions qu'ils avaient fournis à l'UNRWA en 2021. D'autres ont annoncé qu'ils allaient reporter la date de leurs dons. Cela coïncide avec une hausse mondiale des prix de la nourriture, du carburant et du transport, a-t-il noté. L'UNRWA déploie d'importants efforts aux côtés de nombreux pays européens pour s'assurer que les services de l'agence ne soient pas affectés, ainsi que pour souligner l'importance de ces services tant qu'une solution au problème des réfugiés palestiniens n'aura pas été trouvée, a ajouté le responsable de l'ONU. L'UNRWA, qui a été créé en tant qu'agence humanitaire en 1949, est entièrement financé par les contributions et subventions volontaires des pays donateurs. L'agence a été mandatée pour assister et protéger environ 5,6 millions de réfugiés palestiniens enregistrés en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et dans des camps de réfugiés au Liban, en Syrie et en Jordanie. Les services offerts par l'UNRWA aux réfugiés palestiniens comprennent des services éducatifs, des soins de santé, des secours d'urgence, des infrastructures, l'amélioration de la situation dans les camps, des services de protection et une aide microfinancière. En janvier, l'UNRWA a annoncé qu'elle avait besoin d'1,6 milliard de dollars américains de la part de la communauté internationale en 2022 pour couvrir ses dépenses, maintenir ses programmes de développement humanitaire et continuer à assurer ses services aux réfugiés palestiniens. En Somalie, 7 terroristes Shebab ont été tués dans le centre du pays. Les forces spéciales de l'armée nationale somalienne, ANS, la brigade d'Anab, ont tué 7 terroristes Shebab et en ont blessé plusieurs autres lors d'une opération de sécurité dans une zone proche du village de Visil de la commune d'Obio, dans la région de Mudug, au centre de la Somalie, a indiqué un non-responsable militaire. Odova Yusuf Raj, chef de l'ANS, a déclaré que les forces spéciales avaient aussi arrêté deux terroristes et saisi des armes et un véhicule pendant cette opération. Nos forces ont récupéré des armes, principalement 4 engins explosifs improvisés, 4 fusils AK-47 et un véhicule lors d'une opération spéciale dans la région de Mudug de l'État de Galmudug, dans le centre de la Somalie, a précisé M. Raj. Il a souligné que l'opération ciblait les terroristes de la zone afin de réduire la menace qu'ils représentent dans la région, ajoutant que l'armée poursuivra ses opérations contre les Shebab jusqu'au retour de la stabilité. Cette opération est survenue 2 semaines après que l'État de Galmudug a tenu les élections parlementaires dans la région. Les forces du gouvernement ont intensifié leurs opérations contre les Shebab dans le sud du pays. Cependant, les terroristes contrôlent toujours les zones rurales de cette région où ils tendent des embuscades et placent des mines. La Pologne suggère de stationner des armes nucléaires américaines en Europe de l'Est. Le vice-premier ministre polonais a déclaré qu'une telle décision aurait du sens. Il s'est prononcé en faveur du déploiement d'armes nucléaires américaines en Europe de l'Est. Dans une interview avec le média allemand Die Welt, publié dimanche 3 avril, le responsable polonais a déclaré que fondamentalement, il est logique d'étendre le partage nucléaire au flanc Est, se référant apparemment à un concept de l'OTAN par lequel les avantages, les responsabilités et les risques de la dissuasion nucléaire sont partagés dans l'ensemble de l'Alliance. Le vice-premier ministre polonais a toutefois noté qu'une telle initiative devrait venir des États-Unis. En plus de cela, il a appelé le bloc militaire à mettre en place un nouveau centre de commandement en Pologne, semblable à celui de la ville néerlandaise de Brunsum, d'où seront planifiés et menés les déploiements conjoints de l'OTAN. Selon le responsable polonais, cela enverrait un signal clair à la Russie que l'alliance militaire est désormais également présente en Europe de l'Est au niveau du commandement. Outre l'adoption du concept de l'OTAN, Varsovie accueillerait favorablement si les Américains augmentaient à l'avenir leur présence en Europe des 100 000 soldats actuels à 150 000. Les appels du vice-premier ministre polonais à Washington pour renforcer son contingent militaire sur le continent européen interviennent alors que l'OTAN a déjà accepté de déployer des groupements tactiques supplémentaires en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie. Le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a écrit dans un article publié par Sputnik que les actions de la Pologne transformeraient le pays en une ligne de front de l'OTAN. La présence de troupes américaines sur le territoire de la Pologne a fortement augmenté depuis août 2020 et la position actuellement adoptée par les autorités polonaises est bien plus dangereuse pour la sécurité pan-européenne que la mythique menace russe dont Varsovie ne cesse de parler, a dit Dmitri Medvedev. Selon lui, les autorités polonaises promeuvent également avec malveillance une fausse version de l'histoire des relations de leur pays avec la Russie, présentant cette dernière comme un pays hostile. Selon le vice-président du Conseil de sécurité russe, les autorités polonaises sont prêtes à sacrifier le bien-être des citoyens de leur pays, leurs propres intérêts économiques, alors qu'elles sombrent dans une politique russophobe frénétique. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Pakistan, le coup d'État US capoté. Pour la première fois dans l'histoire du Parlement pakistanais, les parlementaires ont scandé « mort à l'Amérique », alors que la législature a rejeté un vote de censure qui visait à évincer le Premier ministre Imran Khan. Peu de temps après le rejet de la motion de censure contre le gouvernement, le Premier ministre pakistanais a proposé au président de dissoudre le Parlement. Le président pakistanais Arif Alavi a ainsi dissous l'Assemblée nationale sur les conseils d'Imran Khan. Il a appelé le peuple du pays à se préparer à des élections législatives anticipées après la session parlementaire. Le dimanche 3 avril, le président de l'Assemblée nationale du Pakistan a condamné l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures du pays et a officiellement rejeté toute méfiance à l'égard du premier ministre pakistanais Imran Khan. Dans un discours tout récemment diffusé à la télévision officielle, le premier ministre pakistanais a déclaré « J'annonce au peuple que j'ai reçu une lettre de menace des États-Unis. Ils ont menacé de renverser mon gouvernement pour avoir refusé d'établir des bases militaires US sur notre sol. J'ai appelé le secrétaire d'État à renforcer les relations avec les pays amis alors que les tensions montent dans la région. Non seulement je ne démissionnerai pas, mais aussi je reviendrai avec plus de puissance car nous sommes exposés aux complots de pays étrangers. Nous résisterons et nous ne leur cédons pas », a déclaré jeudi Khan. Les États-Unis ont tenté d'obtenir le vote affirmatif de 172 membres du Parlement pakistanais, le nombre requis pour une destitution d'Imran Khan du pouvoir et l'ont même menacé de l'élimination physique. Par la suite, Imran Khan a déclaré dans une interview que sa vie était en danger et qu'il sait qu'il prévoit de le cibler à Londres. Un porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères a publié un communiqué rustant les spéculations dans la presse selon lesquelles Islamabad avait décidé de fournir des forces américaines. La dernière base américaine au Pakistan a été fermée en juillet 2012 et le gouvernement d'Islamabad a ordonné son évacuation. Une attaque meurtrière d'hélicoptères de l'OTAN en œuvre en 2011 contre un poste de l'armée pakistanaise à la frontière avec l'Afghanistan, tuant au moins 24 soldats pakistanais, a provoqué la colère des dirigeants politiques et militaires pakistanais. Et en réponse, Islamabad a fermé la base aérienne de Shamsi au Baloutchistan. En juillet 2021, le premier ministre pakistanais a déclaré dans une interview à China Global Television qu'Islamabad était sous la pression des États-Unis et d'autres puissances occidentales concernant ses relations avec la Chine et a juré de ne jamais céder à cette pression. Le Pakistan et la Chine entretiennent une relation très spéciale depuis 70 ans et rien ne peut changer cette relation, a-t-il dit. Concernant la manière d'approfondir davantage les relations avec la Chine, le responsable pakistanais a déclaré que les deux parties avaient de solides relations politiques, mais que ces relations ne se limitaient pas aux relations formelles et incluaient les relations entre les peuples. Il a poursuivi en soulignant le rôle du commerce dans le renforcement des relations futures, qualifiant le corridor économique Pakistan-Chine d'un des plus grands acquis des relations amicales des deux pays.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau volet du débat où nous allons donc discuter de ce fameux sommet donc du Negev où des groupes donc pro-palestiniens ont dénoncé d'ailleurs les prises de position du ministre marocain des Affaires étrangères lors de ce sommet en donc qualifiant qu'il se portait de porte-parole donc de Tel Aviv. Et tout de suite après ce sommet, donc il y a le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a effectué donc une visite de 2 jours au Maroc avant de se rendre aujourd'hui même à Alger. Sans plus attendre, nous allons donc, juste avant de retrouver nos deux invités, regarder ce petit reportage et je vous retrouve tout de suite après.
La Jordanie, la Boudée, l'Égypte ont accepté l'invitation, mais à contre-cœur. Et plus l'Amérique, son initiateur de l'ombre, l'a totalement tué dans l'œuf. Al-Mayadeen a rapporté, citant des médias sionistes, que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a bel et bien mentionné au cours des débats le nom de l'Iran comme une puissance clé que les pays de la région ne pourraient sous-estimer ni faire la guerre contre. Selon le rapport, les médias israéliens ont rapporté que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait déclaré aux ministres arabes des Affaires étrangères participant au sommet du Negev, plus à leur homologue sioniste, que l'Iran était un élément clé dans la région avec ou sans accord de Vienne, ce qui veut dire à peu près la chose suivante. Les USA sont vaincus par l'Iran maintenant, que l'on veuille ou pas, il faut faire avec. Or, cet aveu vient d'un Blinken qu'on a tarissé il y a quelques semaines sur le compte de ce même sommet en disant qu'il était même impossible d'en imaginer la tenue il y a quelques années et que les États-Unis et leurs partenaires travaillent ensemble pour contenir les comportements agressifs de l'Iran et de ses alliés. Le dossier iranien a été d'ailleurs omniprésent au sommet et on disait même que le secrétaire d'État des États-Unis y était pour préparer les esprits des pays opposants à l'accord avec l'Iran, notamment Israël, à un éventuel accord bis. Évidemment, personne ne sait si ou quand l'accord sera renouvelé, mais la quasi-totalité des médias mainstream annonce, avec une certaine frénésie, qu'il y a des indications qu'il pourrait l'être bientôt, malgré plusieurs accrocs de dernière minute, dont l'un implique la demande de l'Iran de déblacklister le corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, de la liste noire de Washington.
Voilà, de retour donc dans ce plateau. Je vais vous présenter tout de suite nos deux invités. Alors, Maître André Chamy, juriste international depuis l'Alsace. Maître Chamy, est-ce que vous m'entendez ?
Parfaitement.
Bonjour à vous et bienvenue donc sur le plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer donc directement.
Merci pour votre invitation et bonjour à Monsieur Michel, qui est un interlocuteur assez assidu et dont j'apprécie les interventions.
Évidemment, Luc Michel, on ne le présente même plus, c'est notre géopoliticien. Monsieur Michel, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je vous entends. Un bonjour à votre équipe et à Maître Chamy, que j'ai aussi grand plaisir à retrouver.
Alors, Maître Chamy, je vais commencer par vous. Donc, merci de nous avoir accordé du temps. Quel est le sens de ce sommet du Negev, pour que nos téléspectateurs le sachent, en fait ?
Alors, pour faire un peu de plaisanterie, ça s'appelle presque une psychothérapie. Parce qu'en réalité, toutes les parties qui étaient présentes essayaient de se rassurer comme elles le pouvaient à travers cette rencontre qui ressemble plus à un cocktail qu'à une préparation de quelque démarche que ce soit. Parce qu'en dehors, pour dire les choses plus clairement, en dehors d'Israéliens et les Américains, qui sont partenaires, pour ne pas dire associés, dans tout ce qui se passe au Moyen-Orient depuis 70 ans, les autres ne servaient qu'à faire de la figuration, parce que qu'est-ce que feraient les Émirats arabes unis, qu'est-ce que ferait le Bahreïn, même l'Égypte d'ailleurs, qu'est-ce que ferait l'Égypte dans une éventuelle stratégie globale ? Il n'y a rien, parce que pour contribuer à une démarche stratégique, il faut que vous ayez de la puissance. Les Émirats arabes unis ont besoin d'une protection. Le Bahreïn a déjà des problèmes intérieurs à régler. Il n'a même pas la capacité de se projeter dans quoi que ce soit, si ce n'est de chercher des gens qui le protègent à gauche, à droite. Il cherche l'Arabie saoudite, il cherche les Émirats, il cherche les Turcs, et il cherche également les Américains et les Occidentaux. Mais en réalité, il n'y arrivera jamais parce qu'il est posté, si je veux dire, à cet endroit-là, contre la volonté de son peuple, et ça finira par chuter. Il reste qui ? Il reste l'Égyptien, et l'Égyptien s'est dépêché de dire « moi, je suis là, mais en réalité, en tant que spectateur, parce que je ne participerai à aucune alliance qui pourrait constituer un front contre l'Iran ou contre toute autre partie. » C'est la raison pour laquelle j'ai eu, le sens de l'humour en disant « ça ressemble plus à une psychothérapie ». Puisqu'ils essayaient de se rassurer. Et notamment pour rassurer les Israéliens. Mais en réalité, pour rassurer les Israéliens, il aurait fallu que les Palestiniens soient présents. Même si l'autorité palestinienne, à mon sens, a perdu toute légitimité et se trouve aujourd'hui dépassée par les autres franges de la résistance, et qui ont fait leur preuve sur le terrain, que ce soit le djihad et bien d'autres, le djihad islamique, etc., ils ont déjà dépassé de loin l'autorité palestinienne. Et même l'autorité palestinienne qui a plus ou moins été connivente par rapport au projet américain, surtout pour des solutions dites pacifiques. Et bien aujourd'hui, l'autorité palestinienne n'était pas présente, et pour cause, parce qu'elle voit aujourd'hui qu'elle est entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il y a sa population qui lui dit maintenant, ça commence à bien faire, vous continuez de faire des concessions, mais les concessions en 70 ans n'ont rien donné. Et en même temps, vous avez l'autre frange, c'est-à-dire la résistance active et armée, qui a fait ses preuves et qui maintenant crée une sorte de dissuasion, pour ne pas dire à instaurer la peur réciproque pour ne pas dire la terreur réciproque des deux côtés, c'est-à-dire si vous bombardez les Palestiniens, ben les Palestiniens riposteraient, et avec cet équilibre de force, même si l'équation est asymétrique, mais il n'en reste pas moins que pour l'intérieur israélien, il y a une crainte que ça déstabilise l'ensemble de la situation au Moyen-Orient, et plus particulièrement au sein de l'entité sioniste, parce que le sentiment de peur déstabilise la démographie, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Je pense qu'on y reviendra, mais les opérations palestiniennes au sein de l'entité sioniste conduira indiscutablement à le départ de cette entité et avec ce qu'on appelle un mouvement de retour vers les pays d'origine, notamment vers l'Occident. Et évidemment, à ce moment-là, cette entité se trouvera confrontée à un problème existentiel dont je parle depuis des années, parce qu'il y a une déstructuration qui se fait à l'intérieur, et l'implosion, à mon avis, de ce système deviendra inévitable.
Très bien, merci beaucoup, Maître Chami. Luc Michel, vous êtes avec nous.
Oui, je vous écoute.
Alors, la visite d'Anthony Blinken au Maroc et même à Alger aujourd'hui, quel est le sens de cette visite, surtout dans le contexte actuel de tout ce qui se passe, en fait, j'allais dire en Afrique de l'Ouest, mais plus particulièrement au Mali?
Du plan de Poutine, dont le véritable but de guerre en Ukraine, c'était de dynamiter l'ordre mondial. L'ordre mondial n'a plus d'existence, et le bloc américano-sioniste, quoique des positions qu'ils croyaient acquises, n'existent plus. En particulier, la majorité des États du Proche-Orient, qui étaient les alliés des Américains, sont restés neutres dans la guerre avec la Russie. En particulier, au sommet de Doha de l'OPEP du gaz, les Émiratis et les Qataris ont pris position en faveur du bloc de l'Est, c'est-à-dire de l'Iran et de la Russie. Plus grave pour les Américains, en Afrique même, où il y a une véritable déflagration, où 34 États africains ont pris position pour la Russie, où sont restés neutres, les Marocains, qui étaient la porte d'entrée des Américains en Afrique, sont également, pour des raisons économiques, restés neutres. Les Américains payent leur politique. Ils ont disjoint les alliances géopolitiques des alliances économiques, c'est-à-dire que les alliances géopolitiques et les guerres économiques étaient disjointes. Aujourd'hui, c'est une politique qui se retourne contre eux. Voilà ce qu'on constate. Et donc, je pense qu'il y a, à l'intérieur du Maroc notamment, des éléments qui essayent malgré tout de radicaliser la situation. Ça explique certaines positions marocaines dans ce sommet et qui ne sont pas suivies par les autres. Il y a même des positions américaines qui ne sont plus cohérentes. La visite de Wendy Sherman au Maroc, par exemple, a pris des positions qui sont par Anthony Blinken. C'est un effondrement par des positions américaines. Et même les Israéliens sont restés neutres dans la confrontation entre la Russie et les États-Unis et veulent adopter une position de soi-disant arbitre au lieu de prendre position pour le rallié américain. Tout cela est inquiétant pour les États-Unis. Il explique les positions modérées dans ton Blinken.
Très bien, merci beaucoup, Luc Michel. Je pense qu'il y a des petites coupures, mais bon, la régie va arranger cela. Maître Chami, est-ce qu'on peut réellement parler d'une alliance, en fait, qui se met en place contre l'Iran ?
Cette velléité de constituer une alliance a toujours existé. Pourquoi ? Pour, en quelque sorte, rassurer l'entité sioniste. Parce que l'entité sioniste sait aujourd'hui qu'elle est encerclée. Elle sait que les ennemis, maintenant, ses ennemis, sont autour de la première couronne. C'est-à-dire, si vous prenez la première couronne, que ce soit la Palestine, c'est-à-dire la résistance palestinienne, vous prenez la Syrie, vous prenez le Liban, et derrière eux, il y a d'autres pays et d'autres populations qui sont prêts à s'engager, bien entendu, dans une éventuelle guerre, pour ne pas dire un conflit généralisé. Évidemment, ça crée un véritable sentiment de peur au sein de l'entité sioniste, raison pour laquelle elle cherche à avoir des alliés. Mais qui sont ces alliés? Les Émirats Arabes Unis? Ça ne constitue pas un allié, parce que jusqu'à maintenant, même avec toute une alliance, je dirais extraordinaire, avec les Saoudiens et bien d'autres, ils n'arrivent même pas à vaincre le misérable peuple yéménite. Alors vous imaginez s'ils devaient tous se rallier contre l'Iran avec toute sa puissance. Vous prenez le Bahreïn, il n'arrive même pas encore à mater sa propre population parce qu'il y a une révolte qui continue et bien entendu qu'ils essayent d'écraser, mais ça ne marche pas parce que, encore une fois, cette population veut un autre espace de liberté que le royaume actuel ne lui assure pas. L'Égypte est confrontée également à des problèmes intérieurs et des problèmes économiques particulièrement graves parce qu'on est à l'approche d'une sorte de famine qui risque d'envahir l'Égypte. C'est-à-dire, quelle solution l'Égypte est capable de présenter à l'entité sioniste, surtout que jusqu'à maintenant, l'Égypte a donné tout ce qu'il pouvait pour aider les Israéliens, y compris participer au blocus de Gaza. Et malgré cela, ça n'a pas empêché le passage des armes, la reconstruction, si j'ose dire, de la force armée de la résistance palestinienne et la rendre encore plus puissante et plus capable maintenant de menacer l'extrême intérieur de l'entité sioniste. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul point qui ne soit pas à la portée des missiles palestiniens. Que peut faire aujourd'hui l'Égypte? Rien. Et c'est la raison pour laquelle Blinken fait ce qu'il peut pour lui dire, bah, regardez voir, maintenant vous avez des alliés dans le coin, mais ces alliés, encore une fois, ce sont eux qui ont besoin de protection. Et toutes les velléités de préparer un front. Évidemment, il y a toujours une guerre de renseignement, il y a toujours une possibilité de proposer des pieds à terre pour les Israéliens dans des zones plus proches de la frontière avec l'Iran. Mais moi, j'ai toujours dit que l'œil vigilant de la République islamique d'Iran et plus particulièrement des gardiens de la Révolution, à mon sens, empêcherait toute possibilité d'une quelconque attaque. Est-ce qu'on est à l'abri de toute folie israélienne? Non. Mais les Israéliens savent que la moindre démarche à l'encontre du territoire ou des bâtiments ou des intérêts iraniens, il y aura une réponse foudroyante et qui mettrait en cause l'existence de cette entité. Et maintenant, c'est ça aujourd'hui ce que j'appellerais le rapport de force, pour ne pas dire l'équation imposée par l'Iran et par ses alliés. Et aujourd'hui, l'évolution de la situation sur le plan géostratégique qui a été rappelée par Luc Michel, évidemment, ne peut que contribuer à l'amélioration des positions iraniennes dans la région, même si l'Iran, dans ses déclarations, dit qu'il est pour la paix et qu'il est pour la paix, mais il n'en reste pas moins que ses alliances avec la Russie et avec la Chine l'inciteraient toujours à être plus proche de la politique russe, et bien entendu les Russes seront plus à même avec les Chinois d'assurer une protection du dos, si j'ose dire, de l'Iran, et ne permettrait pas une quelconque intrusion. Et nous sommes aujourd'hui évidemment dans l'ambiance d'une guerre généralisée qui, à mon avis, n'aura pas lieu, mais cette ambiance-là ne peut que contribuer à créer plus de peur chez les Israéliens qu'auparavant, parce que en cas de conflit généralisé, bien entendu, ils seront entre guillemets les premières victimes de la politique impérialiste américaine avec celle des Occidentaux, qui ne varie pas par rapport à la politique américaine, alors qu'ils auraient dû prendre un peu de distance par rapport à ce qui se passe, mais malheureusement, cela n'arrive pas actuellement.
Très bien, merci beaucoup André Chami. Luc Michel, vous êtes toujours avec nous.
Oui.
Est-ce qu'on pourrait mettre la visite d'Anthony Blinken, donc justement en Algérie et même au Maroc, en fait dans, on va dire, la planification des États-Unis de reprendre les commandes de l'Afrique de l'Ouest et particulièrement du Sahel?
Écoutez, les Américains assistent sidérés à l'évolution de la guerre économique qui est leur véritable pendant en Ukraine. Ce n'est pas important, ce n'est pas les opérations militaires de la Russie contre l'Ukraine. La véritable confrontation entre les Américains et la Russie, c'est la guerre économique qui a pour but américain de fracturer l'économie russe, mais de fracturer aussi les économies européennes. Les Israéliens et les Américains assistent effarés à leur isolement, malgré ce que la propagande de guerre de l'OTAN nous fait croire. Le refus du Proche-Orient de s'engager contre la Russie, le refus du Maroc, le refus de 34 États africains montrent l'isolement complet. Israël même a peur de s'engager contre la Russie. Ça explique sa position. Imprudemment, les Américains, en voulant s'emparer du marché du gaz et fracturer les importations russes en Afrique, ont cru qu'ils pouvaient compter sur l'Algérie, sur l'Iran et même sur le Venezuela pour remplacer la Russie. Et ils oublient leur politique d'hostilité et leur politique de sanctions contre l'Iran et le Venezuela, qui est une politique criminelle depuis des années. Fort justement, les Iraniens et les Vénézuéliens, mais aussi les Algériens, ont refusé de s'engager dans le soutien à l'économie occidentale face à la Russie. À partir de ce moment-là, les Américains se retrouvent isolés. Les solutions alternatives qu'ils proposent n'existent pas. Par exemple, les Russes fournissent à l'Europe 150 milliards de mètres cubes de gaz chaque année. Les Américains ont proposé de fournir une alternative de 15 milliards de mètres cubes. Les Algériens, les Iraniens et les Vénézuéliens ne vont rien fournir. Dès lors, les Américains, comme on dit, le roi est nu et se retrouve nu face à la Russie. C'est cela qu'il faut constater. C'est l'effroi des Américains, mais surtout des alliés européens dans l'OTAN des Américains qui se retrouvent seuls face à la Russie. L'effroi de tous ces gens est de constater que leur plan machiavélique n'a pas fonctionné.
Merci beaucoup, Luc Michel. André Chamy, une dernière petite question. Vous avez parlé tout à l'heure des populations, mais ici, le groupe donc pro-palestinien est un groupe marocain en fait qui a dénoncé qui a plutôt qualifié en fait le ministre des Affaires étrangères marocain de porte-parole de Tel Aviv. Est-ce que le gouvernement marocain ne risque pas de se mettre à dos en fait la population marocaine?
C'est une possibilité, mais en réalité, ce ministre des Affaires étrangères était connu par ses déclarations. C'est-à-dire, ce n'est pas une nouveauté.
Est-ce pas dangereux, alors, pour le gouvernement marocain? Pardonnez-moi.
Ça peut, évidemment, créer à un moment donné. Si le mouvement devait s'amplifier, ça peut créer une déstabilisation importante. Mais jusqu'à maintenant, malheureusement pour la population marocaine, le roi tient par les services secrets et les services de renseignement de toutes sortes depuis des années, même depuis l'époque de son père, toute possibilité d'opposition. D'ailleurs, ils sont connus par leur violence et par leur capacité de réprimer toutes sortes d'oppositions, y compris par les moyens les plus brutaux. Est-ce qu'un jour ça risque de leur échapper? C'est pas impossible, parce que il y a, pas uniquement sur cette question-là, mais sur d'autres questions sociétales, économique, politique, démographique, c'est-à-dire il y a des choses qui pourraient se passer, mais aujourd'hui, objectivement, ce n'est pas prévisible, mais ça peut être des éléments déclencheurs par rapport à ce qui se passe, parce qu'il peut y avoir une sorte de synergie autour des opposants sur ce point-là, et ça deviendrait quelque chose de plus important, ça ferait probablement un effet boule de neige.
Mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est justement le but recherché, cette fameuse déstabilisation au Maroc, ce but recherché par les Occidentaux et particulièrement par les Américains en l'occurrence?
Objectivement, aujourd'hui, ils n'y ont pas intérêt parce qu'ils ont, à l'époque de ce qu'on a appelé les printemps arabes, ils ont sélectionné les pays qu'ils voulaient déstabiliser en raison de, je dirais, justement, des possibilités de changement qui pourraient leur échapper. La Libye était dans cette voie-là, la Tunisie était dans cette voie-là, Et la Syrie, c'était plutôt, si j'ose dire, la dernière pierre de domino, parce que les États-Unis ne pouvaient pas s'en prendre à la Syrie seule, parce que ça aurait été trop flagrant pour dire qu'il y a une déstabilisation. Là, on l'a fait passer comme si c'était une vague de démocratie qui traversait le Moyen-Orient. Et on est passé de la Libye, la Tunisie et l'Égypte. On sait comment ça s'est terminé, c'est-à-dire on est revenu à la case départ. Moubarak, il est blanchi avec toute sa clique. Et aujourd'hui, celui qui l'a remplacé, en réalité, c'est son fils spirituel. Il n'y a que la Libye qui a payé un prix très fort. La Tunisie retrouve un semblant de stabilité. Nous verrons si la démocratie l'emporte avec l'actuel président qui est occupé par une certaine résistance de la classe politique très classique dans ce pays-là. Et la Syrie est en train, de sortir de cette guerre qui a été menée contre elle, même s'il reste encore des zones à libérer et surtout une économie à rattraper avec le vol de son pétrole par les Américains directement, ce qui constitue en soi un crime de guerre que les Américains n'assument pas et personne n'ose les attaquer, y compris en Occident et surtout en Occident, alors qu'on nous parle toujours de crime de guerre, mais là c'est un crime de guerre flagrant, reconnu et particulièrement documenté. Je ne parle même pas des autres crimes de guerre, mais particulièrement celui-ci, et personne n'ose ouvrir, si j'ose dire, la bouche pour reprocher aux Américains ce qu'ils sont en train de faire, parce que c'est un vol aggravé, si j'ose dire, et par une occupation illégitime d'un pays qui ne leur a rien demandé et qui, bien entendu, qui cherche tout simplement à retrouver la paix et la sérénité dans son pays avec sa population.
Très bien, merci beaucoup Maître André Chamy. Donc je le rappelle, vous êtes juriste international et vous nous contactez depuis l'Alsace. Luc Michel, notre géopoliticien depuis Bruxelles, merci à vous d'avoir participé également à ce débat. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous retrouve à une prochaine fois.
Dolat Abadi, né en 1940, est un romancier et acteur iranien. C'est un auteur réaliste de récits à propos de l'immigration et de la vie rurale, dont une grande partie est basée sur ses expériences personnelles. Mahmoud est né à Dolat Abad, village du nord-ouest de la province de Khorasan-Razavi en Iran, près de Sabzevar, et durant toute sa jeunesse, il a aidé son père à travailler dans une ferme et à s'occuper de l'élevage de troupeaux, tandis qu'il lisait les contes du folklore persan. Bien que son père ait eu peu d'éducation formelle, il a présenté Dolat Abadi aux poètes classiques persans, Sadi, Hafez et Ferdowsi. Son père parlait généralement la langue des grands poètes. Il entreprend de faire ses études au lycée de Téhéran, mais il échoue à obtenir son diplôme. Dolat Abadi commence à écrire en 1960 et publie quelques romans, nouvelles et récits. Il joue dans des pièces de théâtre. Sa première nouvelle, Au bout de la nuit, est publiée en 1962 dans le magazine littéraire Anahita. En 1975, il est arrêté et conduit en prison pour 5 ans. Ses deux autres ouvrages importants sont Les contes de Baba Sobhan, sujet d'un film de Masoud Kimiaï, et son roman fleuve Kelidar, rédigé entre 1977 et 1984. Nahid Mozaffari, qui a édité une anthologie peine de la littérature iranienne, affirme que Dolat Abadi avait une mémoire incroyable du folklore, qui venait probablement de ses jours en tant qu'acteur ou de ses origines en tant que personne qui n'avait pas eu d'éducation formelle, qu'avait appris chose en mémorisant la poésie locale et en écoutant les histoires locales. Adolescent, Mahmoud Dolat Abadi a commencé un métier quand son père a ouvert un salon de coiffure. Un après-midi, il s'ennuyait désespérément. Il a fermé le magasin, a donné les clés à un garçon et lui a dit de dire à son père « Mahmoud est parti ». Il a parti un tour à Mashhad, où il a travaillé pendant un an avant de partir pour Téhéran pour poursuivre le théâtre. Dolat Abadi y a travaillé pendant un an avant de pouvoir suivre des cours de théâtre. Quand il a fait, il s'est hissé au sommet de sa classe, faisant encore de nombreux autres emplois. Il était acteur et cordonnier, barbier, réparateur de vélos, abayeur de rue, ouvrier dans une usine de coton et preneur de billets de cinéma. À cette époque, il s'est également aventuré dans le journalisme, l'écriture de fiction et les scénarios. Il a déclaré dans une interview « Chaque fois que j'avais fini de travailler et que je n'étais pas préoccupé par la recherche de nourriture, etc., je m'asseyais et j'écrivais. » Dolat Abadi a interprété Brecht, Arthur Miller et Bahram Beyzai. Il a été arrêté par le SAVAK, la police secrète du Shah, en 1974. Les romans de Dolat Abadi ont également attiré l'attention de la police locale. Lorsqu'il a demandé quel était son crime, ils lui ont répondu « Rien, mais tout ce que nous arrêtons semble avoir des copies de vos romans, ce qui vous rend provocateur pour les révolutionnaires. » Il a été en prison pendant 2 ans. Dolat Abadi ne pouvait rien écrire en prison. Quand il a finalement été libre, il a écrit « L'absence de Solouch » rien qu'en 70 nuits. L'histoire de l'absence de Solouch m'est venue d'un coup en prison et j'ai écrit tout le travail dans ma tête. L'absence de Solouch devint plus tard son premier roman publié en anglais, précédant Le Colonel. Dans l'absence de Solouch, une femme pauvre élève ses enfants dans un village isolé après la disparition inexpliquée de son mari Solouch. Bien que l'idée du roman soit venue pour la première fois à Dolat Abadi en prison, ses origines remontent à son enfance. Ma mère parlait d'une femme du village dont le mari avait disparu et l'avait laissée seule. Elle devait élever seule plusieurs enfants. Comme elle ne voulait pas que le village ait pitié d'elle, elle prenait un peu de graisse d'agneau et faisait la fondre, puis jetait une poignée d'herbes sèches ou quelque chose dans la casserole et mettait enfin là dans le four, de sorte qu'avec la fumée qui sortirait du four, les voisins pourraient penser qu'elle cuisinait un ragoût de viande pour ses enfants cette nuit-là, a dit Dolat Abadi à un intervieweur. Kelidar est une saga sur une famille nomade kurde qui s'étend sur 10 livres et 300 pages. L'encyclopédia Iranica fait l'éloge de son langage héroïque, lyrique et sensuel. L'histoire est extrêmement populaire parmi les Iraniens en raison de sa représentation détaillée des bouleversements politiques et sociaux. Dolat Abadi a passé plus d'une décennie à élaborer l'histoire. J'ai passé 15 ans à préparer, à écrire des nouvelles, parfois à écrire des ouvrages un peu plus longs, les prémices de ce qui allait devenir Kelidar, raconte-t-il. Le Colonel est un roman sur la nation, l'histoire et la famille, commençant par une nuit pluvieuse lorsque deux policiers convoquent le colonel pour récupérer le corps torturé de sa fille. Dolat Abadi a écrit le roman dans les années 1980. Dolat Abadi est célèbre comme l'un des écrivains les plus importants de l'Iran contemporain, en particulier pour son utilisation de la langue. Il élève le discours rural en puisant dans la riche tradition lyrique de la poésie persane. Il examine les complexités et les ambiguïtés morales de l'expérience des pauvres et des oubliés, mêlant la brutalité de ce monde au lyrisme de la langue persane, a déclaré Kamran Rastegar, traducteur de l'œuvre de Daulat Abadi. La plupart des autres écrivains iraniens sont issus de milieux solidement bourgeois, avec une éducation urbaine. Mais Daulat Abadi, en raison de son origine rurale, se distingue comme une voix unique. Il a également suscité des éloges à l'échelle internationale.
Thank you.